Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio.
Germain, comme tu le sais, je suis à tourner plusieurs épisodes de Rouler au suivant en ce moment. On remet des véhicules à des gagnants. Et,
j'attends toujours mon tour, d'ailleurs.
Oui, je sais. Évidemment, il faut transférer les véhicules une fois qu'ils sont donnés. Et là, on s'est cogné le nez contre une porte, puisque jusqu'au 20 février prochain, il n'y a pas de possibilité de faire de transactions. Moi, je ne suis pas un commerçant, donc évidemment, il y a des exceptions, là, mais de particulier ou d'entreprise à particulier, il n'y a pas de possibilité de faire de transactions. Puis on entend...
Tout est mis sur la glace, ouais, littéralement en ce moment.
Oui, littéralement, c'est ça. Et bien évidemment, on a entendu parler un peu dans les médias au cours des derniers jours, là, le fait que la SAC avait temporairement cessé plusieurs de ses opérations. Alors pour y voir plus clair, on est aujourd'hui en compagnie du porte-parole de la Société de l'assurance automobile du Québec, M. Gino Desrosiers. Bonjour, M. Desrosiers.
Bonjour. Bonjour à vous.
Bon, merci d'être avec nous ce matin. J'imagine que vous êtes au téléphone assez souvent cette semaine.
ça fait une bonne semaine.
Oui, hein, c'est ça. Du temps supplémentaire, là, ça s'appliquait peut-être un peu. évidemment, bon, les questions traditionnelles qu'on vous a posées peut-être ailleurs, on va commencer par ça. Quels sont les services qui ne sont pas disponibles en ce moment pour l'automobiliste qui n'est pas un concessionnaire, là?
Ben, je vous dirais que c'est peut-être plus facile de prendre la question à l'envers puis de parler de ceux qui sont disponibles.
OK.
Donc, ce qu'on avait, puis on s'est ajusté un petit peu en cours de route. Là, ce qu'on avait annoncé, c'était le remplacement. Premièrement, on pouvait vérifier la validité là, d'un permis de conduire. On peut remplacer un permis de conduire qui est perdu ou volé. On peut remplacer une plaque d'immatriculation perdue ou volée. On fait aussi l'admissibilité là, des permis étrangers parce que les gens qui viennent s'installer au Québec, tout dépendant de leur pays d'origine, là, ils peuvent avoir des examens à faire. Il y a différentes... Pour ces gens-là, on les reçoit toujours en rendez-vous pour être capable de voir qu'est-ce qu'ils vont avoir à faire comme démarche. Fait que ouais. Si on continue à faire de l'admissibilité, c'est possible de vérifier la conformité d'un véhicule routier. Les examens de conduite pratique se poursuivent. C'est aussi possible, et là j'arrive dans ce que quand je parle de l'ajustement, là, quelqu'un qui aurait besoin d'avoir obtenir son dossier de conduite pour l'obtention d'un emploi, on sera peut-être pas en mesure de lui fournir l'entièreté du dossier, mais il va avoir un résumé qui va permettre à okay. son employeur de voir qu'il a permis de conduire et qu'il est pas c'est pas, mettons, un cow-boy de la route. Et on est aussi au début on avait annoncé que c'était pas possible de faire de déremisage ou de remisage de véhicules. Là, ouais. Cette semaine, on s'est ajusté et pour des motifs soit financiers ou humanitaires, quand les gens nous démontrent ces motifs-là, on va permettre le déremisage. Par exemple, si on pense à motif financier, quelqu'un avait planifié, mettons, de partir 3 mois aux États-Unis, puis il y avait des engagements de réservation à telle date. Puis que là, attendre au 20 février, il risquait de perdre cet argent-là. Donc ça, on va permettre le déremisage avant le 20 février où quelqu'un a besoin d'un véhicule pour aller travailler aux États-Unis ou pour accompagner quelqu'un qui a des traitements médicaux. On va permettre le déremisage du véhicule. C'est toutes des opérations qu'on fait manuellement parce qu'il faut comprendre que là, on a fermé les systèmes, donc... C'est du manuel que nous, on va ressaisir par après dans le nouveau système pour que les dossiers de tout le monde soient à jour et conformes.
Mais si Antoine veut aller faire une balade de Miata qui est remisée, ça, c'est pas accepté.
Non,
pas pour ça. C'est ça. Mais pardon.
Mais au 20, il va pouvoir le faire assis confortablement chez lui là, de remiser son véhicule à partir de cette clique.
C'est ça, parce qu'il faut comprendre que actuellement, le site web ne fonctionne à peu près pas. Il n'y a pas beaucoup de possibilités qu'on peut faire sur le site web. Et ça m'amène...
Évidemment, tous les services en ligne qui étaient disponibles sur le site web, comme on a fermé les systèmes pour la conversion de données, ben on a suspendu ces services-là pour le moment.
Bon, évidemment, ça veut dire que toute personne qui veut vendre ou acheter un véhicule dans les 3 prochaines semaines, grosso modo, ça n'arrivera pas.
À moins de passer par un commerçant. C'est ce que je comprends.
Effectivement. En particulier, c'est pas possible, mais ça, en passant par l'entremise d'un commerçant, ça peut être possible.
OK, c'est ça. Donc, mais une entreprise comme la mienne qui veut vendre un véhicule ou donner un véhicule, un transfert de particulier à particulier, il n'y a rien à faire. Il faut attendre 3 semaines. Il n'y a absolument rien à faire.
Effectivement, faut attendre jusqu'au 20 février. Puis la beauté de la chose à partir du 20 février, c'est que ce service-là, il va être disponible en ligne.
On va pouvoir, c'est ça.
Donc, ça va être plaisant parce que vous vendez votre véhicule un samedi matin, ben dans l'ancien monde, vous deviez vous déplacer à la SAAC avec l'acheteur dans les jours d'ouverture, alors que là, vous me vendez votre véhicule le samedi matin, vous faites ça en ligne. Un peu, là, c'est un peu sur le principe d'une transaction Interact. Donc, vous entrez votre transaction. Quand vous la confirmez, moi, j'ai une notification comme quoi c'est à moi à compléter la transaction. Je vais compléter la transaction. Je peux imprimer je peux certifier que je vais rouler avec le véhicule ou je vais le remiser. Si je roule avec le véhicule, je peux imprimer une plaque provisoire papier, ouais, que je mets dans le véhicule. Ma plaque, elle va t'envoyer par la poste par après. Donc, le samedi midi, je peux rouler avec le véhicule que vous m'avez vendu le samedi matin au lieu d'attendre des disponibilités à la SAAC puis que vous et moi, on soit disponibles en même temps pour y aller.
On va revenir évidemment sur tout ce que ce nouveau système-là va permettre d'offrir parce que j'ai des questions là-dessus aussi. Mais oui, avant tout, comment on explique que le site ne peut pas continuer d'être fonctionnel le temps qu'on mette en marche le nouveau? On est en 2023. J'imagine que sur le plan technique, et je ne suis pas informaticien, mais j'imagine que sur le plan technique, il y a quand même la possibilité de pouvoir continuer d'utiliser une plateforme web pendant qu'on en bâtit un autre.
Parce que je donnais l'exemple, quand iOS sur mon iPhone fait une mise à jour, je ne perds pas l'utilisation de mon téléphone pendant 3 semaines, le temps que ça s'opère, là.
Mais iOS, il fait une mise à jour. Nous, on fait pas une mise à jour, là. Nous, ce qu'il faut comprendre, c'est toute notre vieille technologie puis notre vieille infrastructure technologique qu'on remplace. Et moi non plus, je suis pas informaticien, mais les informaticiens chez nous, en collaboration avec la firme informatique avec qui on a signé un contrat pour travailler sur ce dossier-là.
Ça, c'est la firme McKenzie, si je comprends bien?
Non, on travaille avec LGS, là, qui est une filiale de IBM, là.
OK.
Donc, ça, puis la conclusion qu'ils en sont venus, parce qu'ils ont regardé les possibilités là, de faire un système parallèle ou de dire, bon, on va fonctionner par région. Mettons, cette semaine, on fait Montréal, on laisse le reste ouvert. Il y avait... En raison, entre autres, des vieux systèmes, là, nous, et ça surprend toujours un peu les gens quand on mentionne ça. Nous, on a la plupart de nos systèmes informatiques, il y a à peu près 300 systèmes là, qui ont été bâtis un après l'autre, puis ça a l'air d'un plat de spaghettis, là, si on va faire une image facile. Il y en a là-dedans qui datent du début des années 80, quand on a informatisé la SAAC, là. À l'époque où vous et moi, là, on devait encore jouer à la Marelle dans le cours d'école. Là.
À l'époque où on immatriculait des Chevrolet Citation. ça ressemble à ça.
Ça a bien changé.
Fait que toute cette problématique-là, il y avait un risque que dans la conversion des données, on échappe quelque chose, puis que des opérations qu'on aurait pu faire en parallèle, on les ait plus. Donc, c'est pas de gaieté de cœur que cette décision-là a été prise, mais on a dit on va fonctionner au minimum pendant la période de 16 jours ouvrables, si on enlève les fins de semaine.
Ouais.
Puis pendant ce temps-là, ben la conversion se fait 24 heures sur 24. Là, c'est 15 000 étapes. Ce que nous, on appelle, ce que nos informaticiens appellent leur plan de transition. Là. Donc, ils ont 15 000 étapes, là, puis ils ferment des choses, puis ils font le ménage des données parce que nous, dans nos vieux systèmes, là, quand vous arrivez dans le monde, dans l'ancien monde, vous arrivez à la SAAC, puis vous aviez une question sur votre permis de conduire. La personne allait dans un vieux système informatique qui était encore monté en douce. Là, on était loin d'avoir les systèmes que la plupart des gens ont aujourd'hui. Donc, les vieux écrans noirs avec de l'écriture vert ou orange, là, il allait voir votre information de permis de conduire. Là, on vous répondait. Là, vous aviez... je voudrais payer mon immatriculation. Là, il fallait fermer ce dossier-là, aller en ouvrir un autre. Il y avait une possibilité de 17 diaporamas différents pour réussir à répondre aux questions, de faire le tour du dossier client en permis immatriculation. Là, le but, c'est de faire ramener tout ça en un seul dossier qui va être accessible autant pour vous en ligne quand vous allez créer votre dossier client que pour le préposé qui va être en centre de service et vous présenter en centre de service. Donc, on va gagner du temps quand on va vous servir en centre de service parce qu'on va avoir un système rapide, puis toute l'information va se retrouver au même endroit. Donc là, dans nos 10 milliards de données, il faut faire le ménage parce qu'on a 300 systèmes, peut-être qu'on a 10 fois de l'information sur le permis de conduire d'Antoine Joubert. Donc là, on va faire le ménage, on va garder ce qui est le plus récent sur Antoine Joubert, puis on va le mettre dans son dossier pour quand Antoine Joubert va venir nous voir, on va être capable de lui répondre avec de l'information. Puis quand il va aller en ligne, il ne verra pas quelque chose qui date d'il y a 15 ans, mais il va voir son information la plus récente.
Vous nous parliez d'un système de l'ancien monde qui nous semble désuet. Est-ce qu'on peut imaginer que le nouveau système sera plus efficace aussi en termes de sécurité des données? Parce qu'il y a des données sensibles, il y a des données privées qui sont...
Il y a des transactions monétaires.
En plus, oui.
Oui, c'est effectivement, la sécurité, c'est prioritaire. Donc, le système est fait pour être sécuritaire. Puis l'authentification, là, on va être les premiers là, au gouvernement du Québec à utiliser le nouveau service d'authentification gouvernementale. Donc, quand vous allez vous connecter pour la première fois, vous allez devoir vous créer un identifiant et un mot de passe, mais avec quatre informations personnelles qui vous sont propres, soit numéro d'assurance sociale, le numéro de permis de conduire, le numéro de carte de crédit et le numéro de un de vos deux derniers avis de cotisation de Revenu Québec. On s'entend que les trois premiers, si vous perdez votre permis de conduire, votre portefeuille, ça pourrait être récupéré par quelqu'un, mais il ne pourra jamais se créer un dossier à votre nom ou accéder à votre nom parce que moi, je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi, je connais personne qui se promène avec son avis de cotisation dans ses poches.
J'ai toujours ma petite filière avec moi. Non.
Et je trouve ça intéressant. Et je trouve ça intéressant que vous disiez ça, l'avis de cotisation, parce que là, c'est sur une note plus personnelle, mais je vous fais une mise en contexte. J'ai ma fille qui est devenue majeure récemment, qui n'a pas d'avis de cotisation et qui doit souscrire à la RAMQ. Et pour souscrire à la RAMQ, ça prend un avis de cotisation, mais elle n'a jamais fait de rapport d'impôt. Donc, comment on obtient un avis de cotisation? J'imagine qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui ont 16 ans, 17 ans, qui n'ont jamais fait de rapport d'impôt. Alors, d'avoir un avis de cotisation pour ces gens-là, c'est impossible.
Donc, c'est le numéro d'assurance sociale qu'on utilise dans ce cas-là?
Il va, et ça, mais puis quand les gens vont créer leur identifiant gouvernemental, et là, ce bout-là, c'est pas parce que je veux m'en laver les mains, mais c'est un bout qui relève du ministère de la cybersécurité et du numérique, parce que, comme je vous disais, du moment où vous l'avez créé une fois, il va vous servir dans tous les sites gouvernementaux qui vont adhérer à cette technologie.
Ouais, je comprends, mais c'est parce que moi, je peux vous dire que présentement, ma fille se cogne le nez contre une porte, là, contre un mur, en fait.
J'allais finir de vous répondre, M. Gagné.
Ouais.
J'allais juste vous dire qu'il y a les gens, quand ils vont arriver pour se créer, là, ils vont avoir de l'assistance. Pour des cas comme celui-là, ils vont être capables d'avoir des formules là, complémentaires. Là. Moi, je parlais pour l'ensemble, la majorité des gens. Là, c'est sûr qu'il y a toujours des cas d'exception. Puis dans ces cas-là, les gens vont t'accompagner. Là.
OK.
J'ai un peu la tête dure, mais je suis surtout très sceptique en général. Quelle est la garantie que le 20 février, à 7 heures au matin, tout sera opérationnel et fonctionnel sans aucun pépin?
Ben, on ne peut pas vous garantir qu'il n'y aura pas des petits pépins, comme on ne pouvait pas vous garantir qu'on n'avait pas des petits pépins avec nos anciens systèmes.
C'est ça. Nous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ça ne pourrait pas être pire.
Parce qu'on pourrait, on pourrait se rappeler certains épisodes qu'on a vécu dans les dernières années. C'était pas toujours drôle non plus.
Ouais, je comprends. Moi, en fait...
J'ai juste pas envie que... Oui, le 19, on nous dise, ah, finalement, ça va être deux semaines de plus, puis rendu au début du mois de mars, on nous dise, ah, on va étirer un 10 jours de plus. J'espère juste que l'échéance ne se reportera pas indéfiniment.
Pour répondre à votre question, nous, on a fait des tests, là, puis différentes formes. Mais si on résume, il y a comme eu deux types de tests qui ont été faits. Là. Il y a eu des tests qui ont été faits sur la capacité de charge du système, le nombre de demandes ou de connexions qui peut être fait. Puis ces tests-là sont concluants. Les deuxièmes tests qu'on a fait tout à l'heure, je vous parlais de la période de transition, le plan de transition où il y avait 15 000 étapes qui roulent 24 heures sur 24. Là, il y a 400 employés qui se relaient là, sur les quarts de travail pour que ça roule. Ben, cette opération-là, elle a été pratiquée à deux reprises. Elle rentre dans les temps. Donc, nous, on est confiants que ça marche. Mais comme disait notre vice-président hier, vice-président avec sa sécurité routière qui était en entrevue avec quelqu'un d'autre, peut-être qu'on va avoir des petits pépins quand ça va partir, mais on va être capable de faire fonctionner la majorité, puis on va s'ajuster avec, sur les... Parce que dans l'ancien monde, il y a des matins où on se levait, puis le système fonctionnait pas, donc on se dépêchait à remettre ça en marche pour que ça roule. Donc, ça va être on va s'ajuster, mais on est très confiants que ça va bien fonctionner.
Est-ce que le site va être opérationnel 24 heures par jour? Parce qu'on se rappelle que, toujours dans l'ancien monde, passer 23 heures la semaine, c'était pas possible. C'était pas possible le dimanche matin non plus.
Oui, ça va être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Bon, parfait.
Voilà une bonne nouvelle.
C'est parce que... ça fait toujours drôle de dire ça, mais c'est la vétusté et la désuétude de ces systèmes-là qui faisaient que pour faire des mises à jour banales, là, ben, parfois, il fallait arrêter les systèmes pour faire... Fait que c'était pas l'infrastructure technologique optimale pour offrir des services en ligne. Puis, je sais pas si vous vous rappelez quand on avait fermé tous les centres de services en mars 2020 en raison de la pandémie.
Oui, mais oui.
Les gens nous demandaient pourquoi vous faisiez pas des transactions en ligne. On n'avait pas la capacité de le faire avec les vieux systèmes. On était en train de travailler sur quoi on arrive aujourd'hui.
Parce le système n'était pas vacciné. Là.
Non, le système n'était pas vacciné. Il n'était pas prêt. Il n'était pas majeur non plus.
C'est ça.
Ben là, on était en train de travailler là-dessus. Puis une chose aussi qu'il faut penser, c'est que ça aurait pu être plus rapide si on avait dit, OK, on change les systèmes, puis on continue à faire ce qu'on fait. Donc, on sert des gens au comptoir. Alors que quand la décision a été prise de remplacer les systèmes, ici, ben, les gens ils se sont dit, pourquoi on ne revoit pas un peu notre façon d'offrir les services pour être capable d'arriver au 21e siècle, comme la plupart des organisations et entreprises. Donc, pour faire plus de services en ligne, ça peut avoir l'air banal, mais nous, il y a des choses qu'il fallait changer, qui n'étaient même pas informatiques. Il y a des règlements ou des lois qui ont dû être changées, parce que quand c'est écrit dans la loi qu'il faut que tu te présentes en personne pour signer, ben, si tu ne modifies pas la loi avant de permettre de le faire en ligne... Il y a une organisation gouvernementale qui contrevient à la loi, c'est jamais bien ben gagnant. Là.
C'est assez moyen, effectivement. OK, j'ai quelques questions en rafale. Alors, on va essayer de répondre à toutes ces petites questions-là assez rapidement. D'abord, je vends un véhicule à quelqu'un d'autre. Ce véhicule-là doit avoir une évaluation pour les taxes. Disons que le véhicule est évalué à 6 500 selon la SAC. Moi, je vends le véhicule 5 000. Est-ce que le système va être en mesure automatiquement de fournir l'évaluation pour taxer en conséquence?
Ça devrait, parce que dans une démonstration que... Parce que là, moi, personnellement, je ne l'ai pas testé, le nouveau système, mais dans une démonstration que j'ai vue, quand... Tout à l'heure, on parlait là, que la transaction en ligne se ferait là, un peu comme une transaction interact, ben quand l'acheteur complète son bout, ben il va avoir un endroit où il va entrer le prix de vente, puis là, il va avoir un calcul qui va se faire pour le versement de la taxe, puis vous allez pouvoir décider de le payer directement ou de faire l'étalement. Donc, vous allez avoir plein de possibilités en ligne pour être capable de compléter votre transaction.
Si j'achète un véhicule catégorisé comme ancien, est-ce qu'on peut faire la transaction en ligne? Et je pose la question parce que lorsqu'on achète un véhicule ancien, ça prend un document d'évaluation d'expert qu'on va fournir avec le véhicule, nonobstant le prix de vente. Ce document-là, on peut bien le télécharger sur le site de quelque façon que ce soit, mais il faut qu'il soit numérisé, informatisé, que le prix soit accepté. Je ne sais pas trop comment ça marche.
Ça j'ai pas ce détail pointu-là. Je pourrais le vérifier puis vous le reconfirmer par la suite.
Un mandataire de la SAC qui n'offre pas nécessairement tous les mêmes services qu'un bureau officiel de la SAC, est-ce qu'il se voit pénalisé suite à la refonte de ce système-là ou est-ce qu'il va continuer d'offrir un maximum de services?
Il va offrir les mêmes services qu'il offrait actuellement. C'est le. Puis il va travailler avec un système plus récent que le vieux système sur lequel il travaille actuellement.
L'enregistrement d'une voiture, ce qu'on appelle le petit papier vert qu'on a entre les mains, j'ai cru comprendre que ça allait changer. Quelle va être l'information supplémentaire qu'on va retrouver sur ce papier-là et comment ça va être un avantage?
Ben, ça va être. Là, pour l'information. Oui, il va effectivement changer. De mémoire, là, je pense qu'on va plutôt enlever de l'information qu'en ajouter. Ça va être plutôt. Parce que des fois, il y avait de l'information qui était, mettons, sur le nombre d'essieux qui n'était pas nécessaire pour une voiture, mais qui apparaissait pareil. Donc ça va être enlevé. Ça va, le certificat d'immatriculation, l'information va vraiment être en lien avec le véhicule que vous avez. La deuxième chose, c'est que le certificat d'immatriculation, il va changer de couleur, il sera plus vert, il va être blanc. Puis la raison est facile, c'est que vous allez pouvoir, si vous le perdez, l'imprimer directement à partir de votre dossier personnel en ligne plutôt que de vous représenter dans un point de service. Donc, vous allez pouvoir consulter votre certificat en ligne, vous allez pouvoir l'imprimer si vous le perdez. Là, vous allez pouvoir... ça, c'est des choses qui vont se faire en ligne.
Pourquoi est-ce que la décision de ne plus donner de plaque d'immatriculation dans les bureaux de la SAC et les concessionnaires a été prise? Je vous pose la question, évidemment, parce que je sais qu'on va imprimer des plaques temporaires, mais on vit au Québec, il pleut, il neige, il fait moins 20. Installer ça sur une auto, c'est pas toujours évident. On passera pas notre temps à imprimer, réimprimer, la feuille va s'arracher. Puis on connaît la fiabilité de Post Canada. Moi, récemment, ça m'a pris un mois et demi, deux mois à recevoir des lettres chez moi. Fait que j'aurais la même crainte pour la plaque que j'attendrais par la poste. Là. J'ai peur. Moi, la transition, là, je vous dirais que ça, c'est le point sur lequel je suis un peu plus critique. Là.
Bon... Je pense qu'il y a entre autres une question là, de gestion d'inventaire dans les centres de services puis de manipulation. Pour ce qui est effectivement de la température, c'est sûr que votre plaque papier, là, ça va être mieux de la mettre en arrière dans votre vitre arrière que à l'extérieur du véhicule. Puis présentement, on en fait là, de l'envoi de plaques par la poste là, quand soit vous commandez une plaque personnalisée ou que vous faites un remplacement de plaque d'immatriculation là, qui est défectueuse en utilisant notre service en ligne là, qui est actuellement fermé, mais qui fonctionnait bien depuis novembre 2020. Et puis les gens, habituellement, ils reçoivent leur plaque dans un délai de 15 jours. Fait que c'est un système qui est quand même bien rodé. Là.
Mais dans le contexte où la plaque est perdue par la poste, etc., bien, il y a tout un reprocessus à faire pour commander une autre plaque. Là. Alors, tu sais, il y a quand même une part de risque qu'on n'avait pas avant. Là.
Vous pouvez le voir comme ça, mais comme je vous dis, actuellement, le système qui a été rodé pour l'envoi postal fonctionne quand même bien. Donc, on est confiant que ça fonctionne bien aussi.
J'ai cru comprendre que les plaques d'immatriculation vont pouvoir demeurer sur les véhicules et passer d'un propriétaire à l'autre, ce qui n'a jamais été le cas au Québec auparavant.
C'est le cas ailleurs dans le monde.
Bien, en Californie, notamment, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, la plaque va souvent rester avec le véhicule et changer de propriétaire. Alors, est-ce que l'automobiliste québécois va avoir le choix d'avoir une nouvelle plaque ou de conserver celle de l'ancien propriétaire? Comment ça fonctionne?
Oui, ça va. Effectivement, vous allez pouvoir, quand vous cédez votre véhicule, décider si vous cédez aussi la plaque ou si vous conservez la plaque pour le prochain véhicule que vous allez acheter ou que vous avez déjà acheté. Là. Donc, puis quand vous allez faire la transaction en ligne avec votre dossier là, pour le transfert entre particuliers, vous avez une case à cocher où ça va être écrit, mettons, c'est pas la phrase là, mot à mot, mais mettons, je désire céder ma plaque à l'acheteur. Vous allez cliquer ça.
D'accord.
Ça va être automatiquement, le lien va se faire pour que quand l'acheteur lui va confirmer la transaction, que la plaque d'immatriculation soit liée à son véhicule à lui.
Parce que ça, dans le fond, sur le plan environnemental et sur le plan logistique, je trouve que c'est un pas en avant. Pour ceux qui craignent de ne pas avoir une nouvelle plaque, justement, ou qui veulent pas nécessairement se casser la tête avec ça, bien, garder la plaque de l'ancien propriétaire, ça se fait tout naturellement. Puis c'est une plaque de moins qu'on fabrique, là.
Puis là, tout à l'heure, je vous parlais là, de que pour faire évoluer nos façons de faire, il fallait modifier la réglementation. Mais avant ça, le fait de ne pas pouvoir se désaplaquer, ça faisait partie du règlement sur l'immatriculation. Donc, il a fallu, c'était des modifications qu'il a fallu apporter, mais vous avez raison, sur un point de vue, ne serait-ce qu'environnemental, là, c'est des plaques de moins à produire parce que il y a des. Dans l'ancien monde, là, notre plaque d'immatriculation, notre numéro de plaque nous restait attaché à notre dossier jusqu'à notre mort. Là. Quelqu'un qui avait eu plusieurs véhicules avec plusieurs plaques, ben il pouvait avoir dans son dossier une série de numéros de plaques qui n'existaient plus du tout, mais qui étaient rattachés à son dossier quand même.
Alors, je pense que Germain a une dernière question, mais avant tout, je tiens à vous remercier. À vous remercier parce que, malgré tous ces changements-là, vous n'avez pas cru bon de faire comme l'Ontario et de nous donner deux plaques d'immatriculation, une qu'on met à l'avant et une qu'on met à l'arrière.
Il n'y a rien de plus laid que ça.
C'est épouvantable. Ça, je comprends pas encore pourquoi il y a certains États américains, certaines provinces qui ont deux plaques.
Beaucoup d'États américains, en fait.
Mais là, au Québec, c'est nous on qui a une bonne nouvelle, ça n'arrivera pas et on vous en remercie énormément.
C'est nous qui sommes l'exception.
On en a déjà eu deux.
Oui, c'est vrai.
Au Québec, là, ça a comme tombé à l'époque où on était encore très jeunes.
Ben, en fait, Germain était très, 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 très jeune.
J'étais surtout pas né, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. En terminant, M. Desrosiers, est-ce que...
Si je vous ai fait délire trop, là.
Non. je sais qu'à la radio, c'est pas évident.
Je vais m'en occuper, moi, de le faire vieillir, c'est bien correct.
en terminant, M. Desrosiers, pour le consommateur moyen, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires à prévoir pour une quelconque transaction ou une quelconque étape dans un éventuel processus avec cette nouvelle plateforme-là?
Des frais de transaction en ligne, par exemple?
Oui, par exemple.
Non, il n'y a rien de prévu en ce sens-là. C'est justement, le système va se financer avec les gains d'efficacité que nous, on va faire, entre autres, ne serait-ce que si on regarde là, dans les dernières années, puis on avec le nombre de transactions qu'on fait, puis on fait une projection, nous, là, on a à peu près 2% de plus de transactions permis immatriculation à chaque année. Ça, pour être capable de répondre à cette demande-là, ça veut dire beaucoup plus de faut engager du monde en pénurie de main-d'œuvre. C'est pas nécessairement facile engager des gens. Donc, le fait qu'on va pouvoir faire plus de services en ligne, ben c'est de la main-d'œuvre de moins qu'on n'aura pas moins d'engager. Le fait que, parce qu'on n'en a pas parlé, mais quand vous allez créer votre dossier en ligne, vous allez pouvoir décider si vous conservez les communications écrites avec la SAC ou si vous voulez que ça se fasse tous de façon électronique. Donc, on vous envoie des messages dans votre dossier client. Donc, si vous décidez que vous n'en voulez plus de nos avis de renouvellement papier, ben juste en frais d'impression, en achat de papier puis en frais postaux, rapidement, là, c'est des gains appréciables pour la société.
Bon, puis évidemment, on peut s'imaginer aussi que ce nouveau site Web-là, en terminant, va permettre de désengorger les bureaux de la SAC et les bureaux des mandataires. Est-ce que vous prévoyez, je ne veux pas dire des mises à pied, mais nécessairement de la réduction de personnel dans certains des bureaux de par l'efficacité de ce système-là?
Mais ce qu'on prévoit, c'est sûr que les bureaux vont rester ouverts parce qu'il y a des gens qui vont avoir besoin de continuer à aller dans des centres de services pour certaines transactions. On a juste pensé aux examens ou à la prise de photos. On n'est pas encore rendu à une prise de photos qui n'est pas faite en centre de service.
Mais il y a encore des gens qui vont faire des mises à jour de leur carnet de compte de banque. Hein? Fait que il va toujours y en avoir.
Le fameux petit livret, là.
Il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la technologie, donc ils vont continuer à venir nous voir. Mais si, effectivement, il y a moins de fils, ben, les gens qui sont dans les centres de service, ils vont être utilisés à d'autres fonctions. Par exemple, ces gens-là vont... Admettons que dans un centre de service, une journée, c'est plus tranquille, mais qu'on sait que sur la ligne téléphonique, ben, il y a beaucoup d'attentes. Ben, il y a des préposés au comptoir qui vont être disponibles pour aller faire du service téléphonique. Donc, on va avoir du personnel de façon, je dirais, plus agile pour changer de façon de travailler. Puis ça va permettre de répondre, de mettre des gens là où on va en avoir besoin. Donc, il n'y a pas de pas de perte d'emploi de prévu parce que je ne sais pas si vous avez, il y a des journées appelées à la SAAC, ça peut être compliqué aussi. Donc, si on a plus de personnes pour répondre, on va être capable de prendre davantage d'appels. Donc, on devrait rendre la clientèle plus satisfaite.
Monsieur Desrosiers, on vient de passer 30 minutes ensemble en espérant que ma prochaine transaction à la SAC soit plus courte que ça. Merci beaucoup de votre temps aujourd'hui. Et bon, puis,
on se reparle le 21.
C'est ça, on se reparle le 21 au matin. Ça marche.
C'est parfait, bonne journée.
Merci,
au revoir.